Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez graphite94.net ou sur le web sur graphite.net. Et on continue toute l'après-midi cette série d'émissions autour du cours WE01, Questionner le web, qui est enseigné à l'Université de Technologie de Compiègne, mais dont le contenu est aussi librement accessible avec tout un tas d'autres ressources chouettes sur librecours.net. Pour cette émission, je suis en direct en studio avec deux étudiantes, Clara et Lucie. Bienvenue. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et pour ce projet, pour votre passage, vous allez nous proposer quelque chose qui est relativement rare dans le cadre de WE01, parce qu'on a l'habitude de traiter de sujets quand même qui ne sont pas genre ultra joyeux. Et vous avez déniché un sujet qui donne des pistes émancipatrices d'une certaine manière et qui font écho à finalement les mission d'avant où on se demandait qu'est-ce que l'ingénieur pouvait faire, est-ce qu'on était condamné à observer comme ça la technique de loin, mais j'en dis pas plus et je vous laisse la parole.
Alors, pour vous donner un peu de contexte, récemment, alors que je me baladais sur Instagram, je suis tombée sur plusieurs vidéos de créateurs et créatrices qui documentaient leur fabrication de petits ordinateurs. Ils expliquaient comment ils assemblaient les différents composants à l'intérieur de leur étui parfois complètement unique. D'une palette de maquillage en forme de coquillage à un sac à main réemployé en passant par une boîte à goûter Spider-Man, tout peut apparemment servir d'étui d'ordinateur à partir du moment où on l'assemble nous-mêmes. J'en ai parlé à Lucie, qui m'a dit qu'elle était tombée sur les mêmes vidéos. Mais si vous ne les avez pas vues, pas de panique, parce que c'est exactement le sujet que nous allons aborder dans notre émission.
Et donc, après quelques recherches, nous avons découvert que ces étranges ordinateurs s'appellent les Cyberdecks. En réalité, le terme cyberdeck est apparu pour la première fois en 1984 dans le roman de science-fiction « Nos romanceurs » de William Gibson, où ils sont décrits comme de petits terminaux informatiques utilisés pour accéder à un espace numérique appelé le cyberespace ou cyberspace si vous préférez. On peut d'ailleurs considérer que les cyberdecks s'inscrivent dans un mouvement plus large appelé le mouvement maker.
Et qui sont les makers ?
Eh bien, il s'agit de bidouilleurs créatifs qui fabriquent, encouragent l'expérimentation technique et surtout coopèrent en échangeant leurs connaissances sur des plateformes telles que des sites web dédiés, Reddit, Instagram ou encore YouTube.
Bref, bienvenue dans cette revue intitulée Cyberdecks, Movement Maker et Théorie du support, reprendre le contrôle du numérique. Dans cette émission, nous allons essayer de comprendre en quoi les cyberdecks peuvent être interprétés comme une tentative de réappropriation des supports numériques face aux logiques capitalistes des grandes entreprises du numérique actuel.
Et donc, pour répondre à cette problématique, nous nous appuyons sur l'article de Sylvain Parasi et Sébastien Schultz, « Le numérique au service de la transition écologique, un panorama des recherches en sciences sociales » publié en 2024 dans la revue Réseau. Dans un passage de l'article consacré au collectif Makers, les deux auteurs montrent que ces communautés utilisent les technologies numériques pour expérimenter d'autres façons de produire et de partager les connaissances. Par leur pratique, ils tentent de dépasser la logique capitaliste, productiviste et lucrative des grandes plateformes technologiques actuelles, qui ont autrement dit une vision centrée sur la croissance numérique et la consommation. Les Makers ne considèrent pas la technologie comme une fin en soi, mais comme un moyen favorisant l'autonomie technique et surtout la créativité.
En citant les travaux de Vassilis Kostakis publiés en 2018, les auteurs montrent cependant que ce qui est, selon moi, un idéal technologique de collaboration, présente plusieurs limites. D'une part, la fabrication des cyberdecks nécessite l'accès à des outils numériques comme des imprimantes 3D et à des composants électroniques. Or, ces composants électroniques, souvent issus de grandes chaînes de fabrication industrielle, peuvent provenir de pays éloignés comme la Chine. Par exemple, selon l'International Energy Agency, la Chine assurait en 2024 environ 60% de la production mondiale de terres rares magnétiques et 91% du raffinage mondial de ces terres rares. Autrement dit, même si les collectifs makers recherchent une forme d'autonomie technique, ils continuent à dépendre des composants électroniques qu'ils ne sont pas capables de fabriquer eux-mêmes.
Ou même, plus simplement, la fabrication de cyberdecks nécessite du temps, des compétences numériques et l'accès à des Fab Labs ou autres makerspaces pour les utilisateurs qui ne possèdent pas les outils de fabrication requis.
C'est vrai. Et en tout cas, l'ensemble de ces limites explique en partie la difficulté rencontrée par les collectifs makers à passer à une production à plus grande échelle et à concurrencer les grandes entreprises et leurs moyens industriels.
Dans la pratique, les réseaux makers semblent donc être plus assimilables à des laboratoires d'expérimentation qu'à une véritable alternative au modèle industriel actuel. Pour approfondir notre étude, faisons appel à la théorie du support.
Mais qu'est-ce que la théorie du support ?
Eh bien, pour comprendre cette notion, nous pouvons nous appuyer sur la citation du philosophe Marshall McLuhan, « The medium is the message ». Comprenez, le média est le message. Pour résumer, les effets causés par les médias ne proviennent pas uniquement de leur contenu, mais également de leur forme et de leur fonctionnement. Un média ne se résume pas à un outil qui communique un message, il influence aussi la personne à travers sa relation avec le monde, les autres ou ses habitudes.
Prenons l'exemple de Lucie qui lit un article de journal. Imaginons maintenant que dans une réalité parallèle, elle regarde une vidéo présentant exactement le même article. On pourrait penser que le résultat final sera le même, mais en réalité, elle ne percevra pas l'information de la même façon. L'interprétation du présentateur, par ses gestes, sa voix ou ses expressions faciales, influencera le message. De même, si la vidéo est animée d'extraits imagés, l'illustration de l'information perçue par le spectateur ne sera pas la même que celle qu'il aurait pu imaginer.
Exactement. Et on peut également ajouter que le temps d'intégration de l'information est différent en fonction du média. Un lecteur dispose d'autant de temps dont il a besoin pour lire un article. Tandis que dans le cas de la vidéo, la vitesse d'intégration des informations dépend du rythme de celle-ci. L'expérience vécue sera donc totalement différente. On peut donc conclure qu'en plus d'être porteur d'informations, le support lui-même influence notre comportement et la manière dont on perçoit ces informations.
L'idée est d'ailleurs complétée par l'enseignant chercheur Yves Jeanneret, qui montre que les dispositifs techniques orientent certaines pratiques et en découragent d'autres. Les technologies ne sont donc jamais de simples outils neutres. Pour vous aider à visualiser, prenons l'exemple du smartphone. Les applications préinstallées, les paramètres par défaut ou l'organisation de l'interface peuvent influencer les utilisateurs. De plus, la complexité de désactivation de ces paramètres par défaut peut servir à dissuader l'utilisateur de les désinstaller. Ou encore, l'utilisateur peut tout simplement ne pas prêter attention à ses choix de conception par défaut et ignorer l'influence qu'ils peuvent avoir sur lui.
Et oui, en effet, une étude menée en 2024 par Amel Bourdoussin et Jeanne Lindvist sur l'écosystème Apple a montré que plusieurs utilisateurs éprouvaient des difficultés à identifier ou désactiver certains accès aux données personnelles des applications préinstallées, notamment à cause d'interfaces jugées trop complexes.
L'utilisateur construit donc ses habitudes d'utilisation autour des paramètres initiaux. On peut supposer que si ces paramètres avaient été différents, les habitudes de l'utilisateur auraient été impactées. À l'opposé, en réalisant lui-même la conception de son interface, l'utilisateur peut choisir la façon dont le média influencera son comportement. Vous le voyez venir, les cyberdecks sont donc l'illustration parfaite de la réappropriation du support numérique.
En effet, si les plateformes numériques nous influencent en orientant nos usages, on peut alors considérer que modifier le support devient une manière d'agir sur ces usages. Et on peut appliquer cette idée aux créateurs des cyberdecks. Fabriquer son ordinateur implique le choix de son matériel, son système d'exploitation, ses logiciels, voire même la personnalisation de son enveloppe. L'utilisateur devient donc créateur de son propre environnement numérique et acteur de son utilisation.
Cette personnalisation, au compensant numérique près, n'est pas compatible avec la personnalisation proposée par les GAFAM, qui se limitent à des choix définis dans leur intérêt, notamment pour augmenter la fidélité de leurs clients. Les makers, quant à eux, peuvent effectuer des modifications lorsqu'ils le décident et adapter leur cyberdeck à leurs besoins spécifiques.
Les cyberdecks incarnent ainsi plusieurs valeurs. En plus de mettre en avant la coopération, les cyberdecks constituent un symbole d'émancipation en montrant qu'un ordinateur n'est pas qu'une boîte noire réservée aux professionnels. Les communautés makers axées sur les cyberdecks partagent et rendent accessibles de nombreuses compétences techniques qui semblent inatteignables. Elles reprennent ainsi le contrôle de compétences qui sont souvent monopolisées par les industries.
Les cyberdecks représentent également une forme de critique face aux appareils standardisés qui dominent le marché. en mettant en avant une personnalisation qui permet d'adapter le support numérique aux besoins de chacun.
Pour résumer, construire un cyberdeck et plus généralement adopter une démarche maker permet d'expérimenter un nouveau rapport à la technique. Un rapport qui met en premier plan la compréhension des systèmes, l'expérimentation technique, la créativité et la coopération.
Alors lisez, testez, fabriquez, partagez, échangez. Nous espérons que grâce à cette émission, vous avez découvert qu'il est possible d'expérimenter des formes de production plus collaboratives, basées sur le partage des connaissances et l'autonomie.
Certes, vous ne fabriquerez peut-être pas un cyberdeck demain, mais vous pouvez déjà commencer par adopter des réflexes makers, en choisissant vos supports numériques, en les interrogeant, voire même en les personnalisant légèrement. Vous pouvez reprendre du contrôle sur votre utilisation du numérique. Vous deviendrez ainsi les acteurs de votre propre pratique du numérique et non plus juste de simples consommateurs.
Merci pour votre écoute.
Et merci à vous, Clara et Lucie, pour votre travail et votre restitution. Vous avez aussi fait un site web pendant tout le semestre sur lequel on pourra trouver du coup les références sur lesquelles vous êtes basé, parce que vous avez mobilisé beaucoup de références pour ce travail. Ouais. Et pour conclure, avant de conclure l'émission, vous avez choisi une musique. Vous voulez la présenter ou juste dire ce que c'est ?
Alors la musique, c'est Algorithm de Muse.
C'est parti. De retour pour conclure cette émission avec vous, Clara et Lucie, sur les CyberDex. Vous nous avez présenté plusieurs enjeux autour de ces ordinateurs, de ces petits types d'ordinateurs que vous avez repérés d'abord sur Instagram. Mais en fait, en vous écoutant parler au fur et à mesure, ça m'a un petit peu fait penser un truc que nous, on avait remarqué chez Picasso, donc voilà, une asso dans laquelle je suis qui parle notamment de logiciels libres, de tous les sujets qu'on aborde un peu en WO01, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas très valorisé, pas très courant dans l'informatique, c'est le sujet de la maintenance, du soin des systèmes existants. Et on se retrouve souvent avec des systèmes qui vieillissent, des systèmes qu'on doit changer, une rhétorique de la nouveauté. Et moi, assez peu d'intérêt accordé au rapiessage, au rafistolage, à ce genre de choses. Et du coup, je me demandais, est-ce que il peut y avoir un lien des choses que vous avez repéré un peu par rapport au CyberDex, est-ce que c'est une inversion un peu de la tendance? Qu'est-ce que vous en pensez?
Par rapport à ça, on n'a pas vu énormément d'articles, c'est pour ça qu'on l'a pas cité, mais on a quand même vu que ça pouvait permettre justement ce care de la technologie, puisque on a créé notre propre système, c'est-à-dire qu'on connaît le système et notre CyberDeck par cœur. On sait qu'est-ce qu'on a mis comme puce électronique dedans, enfin voilà, tous les exemples possibles. Et donc, si quelque chose casse, on peut facilement le récupérer. Et d'ailleurs, les CyberDecks sont faits aussi à partir de récupération. Ça peut être des vieux écrans récupérés, des vieux claviers. Et donc, il y a un peu cette histoire de réutilisation, justement, de notre matériel.
Je me permets aussi d'agrandir un petit peu plus le sujet par rapport à l'écoféminisme. Qu'est-ce que c'est l'écoféminisme? C'est cette idée que la cause écologique peut en partie être liée au féminisme, pour faire simple et rapide. À la base, quand on a découvert ces vidéos de personnes qui construisaient des cyberdecks ou des cyberdecks, c'était des femmes et on s'est dit « Waouh, c'est extraordinaire, en fait Elles ont trop la classe et elles sont hyper inspirantes de construire ces ordinateurs elles-mêmes. Et ça pose aussi toute une question de... actuellement, il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'elles ont moins de légitimité par défaut. Je ne sais pas si forcément conscient ou inconscient dans les domaines techniques, dans tout ce qui est informatique. Et ça montre vraiment que tout le monde peut construire son propre ordinateur et tout le monde peut reprendre du contrôle sur son utilisation du numérique.
Ben, merci encore Clara et Lucie pour votre intervention, et du coup moi je ne peux que encourager les hommes à plus s'intéresser aux tâches de soins qui sont pas très valorisées traditionnellement, que ce soit dans l'informatique ou ailleurs, en lieu et place de porter des grands discours comme je le fais un petit peu paradoxalement. Et on se retrouve après quelques minutes de pause pour la troisième émission consacrée à WO01. À tout de suite.